France Inter.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Au sommaire du 13-14, une fusillade entre deux voitures sur une autoroute. Il y a un mort, un ancien parrain de la mafia grenobloise. Ça s'est produit ce matin entre Grenoble et Chambéry. L'autoroute A41 a dû être coupée dans ce secteur. Le bras de fer sur l'acier. Les États-Unis imposent donc 25% de droits de douane sur l'acier et l'aluminium venus du monde entier. L'Union européenne va répliquer avec des taxes de l'ordre de 26 milliards d'euros sur les produits US. Un cessez-le-feu pour l'Ukraine. On attendait la réponse de Moscou à la proposition américano-ukrainienne. Sylvain Tronchet, que dit le Kremlin ?
Il ne dit rien ou pas grand-chose. Apparemment, à Moscou, on cherche surtout pour l'instant à gagner du temps.
Dans ce journal aussi, le CBD n'est pas forcément compatible avec certains médicaments. Gare aux interactions. Un déménagement spectaculaire. Tout un EHPAD qui est parti de l'autre côté de la rue à Saint-Astier en Dordogne.
C'est surtout stressant. Parce que quand on change de bâtiment, comme ça, surtout de chambre, on avait nos petits repères et d'un seul coup, paf.
Paf, et le cinéma du mercredi avec Alexis de Meyer. En deuxième partie, à partir de 13h30, combien allez-vous payer votre billet SNCF cet été ? Ils ont été mis en vente ce matin, mais certains vont quand même se retrouver non loin de quelqu'un qui aura payé sa place trois fois moins cher. Alors comment s'y retrouver ? Quel est le juste prix alors que la SNCF pratique ce que l'on appelle la tarification dynamique, yield management en anglais, comme pour les compagnies aériennes ? C'est un secret industriel, figurez-vous. Toutes vos questions sont les bienvenues. 01 45 24 7000. C'est la France avec un hors-série mémoire du 1 sur le capitaine Dreyfus et un autre retour en arrière dans C'est une chanson dans les années 80 cette fois avec les Smiths. C'est le choix de la romancière Barbara Israël au micro de Frédéric Pommier. Vous avez le programme, ravi de passer cette heure avec vous.
France Inter.
Et donc on commence par cette fusillade entre deux voitures sur l'autoroute. Cette scène assez hallucinante a eu lieu en milieu de matinée sur l'autoroute A41 entre Grenoble et Chambéry. Il y a un mort, une ancienne figure du milieu grenoblois. L'autoroute a dû être coupée. Véronique Pueyo d'ici Isère, bonjour.
Bonjour.
Et compte tenu évidemment de l'identité de la victime, on pense à un règlement de compte.
Le mort de la fusillade sur l'autoroute A41 n'est pas un inconnu, loin de là. Il s'agit de Jean-Pierre Maldera, figure du grand banditisme italo-grenoblois dans les années 80-90. Les frères Maldera, c'est la dernière famille en France à faire plus peur que les caïds des cités, nous avait un jour confié à leur sujet un bon connaisseur du milieu. Pendant des années, avec son frère Robert, Jean-Pierre Maldera avait fait la une des pages faits divers pour association de malfaiteurs, proxénétisme aggravé, racket. Leur nom était cité dans plusieurs règlements de compte sanglant. La police grenobloise présentait d'ailleurs Robert comme le parrain de la capitale des Alpes. En 2015, ce dernier quitte sa maison de Mélan pour se rendre à un rendez-vous mystérieux. On ne le reverra jamais. Jean-Pierre, seul survivant de la fratrie, vivait depuis des années avec une épée de Damoclès sur la tête et il le savait. Sa vie s'est donc arrêtée ce matin sur l'autoroute entre Grenoble et Chambéry. Il était au volant de sa BMW quand une voiture est remontée à sa hauteur. Un tireur a fait feu. Maldera s'est écroulé. Le tireur est activement recherché. Des barrages routiers ont été mis en place par les gendarmes, mais pour l'instant sans résultat.
Véronique Pueyo d'ici Isère. Tariffs, droits de douane, le plus beau mot de la langue anglaise selon Donald Trump. Il en use et en abuse. C'est le point cardinal de toute sa politique économique. C'est donc 25% de taxes sur l'acier et l'aluminium depuis ce matin pour tous les pays du monde. C'est sa marotte. Il l'avait déjà fait lors de son premier mandat, mais cette fois c'est sans exception et sans exemption. Les États-Unis importent la moitié de l'acier et de l'aluminium qu'ils utilisent dans l'automobile, la construction, l'aviation, la pétrochimie, jusque dans les boîtes de conserve. Alors ce matin, eh bien, l'Union européenne riposte. Bonjour Fabien Cazot.
Bonjour Christelle, bonjour à tous.
France Inter à Bruxelles, l'Union qui promet d'appliquer des droits de douane forts mais proportionnés. Qu'est-ce que ça signifie ?
Alors ça signifie qu'ils porteront sur un montant équivalent de produits importés 26 milliards d'euros côté européen, 28 milliards de dollars côté américain. C'est à peu près la même chose hein, quand on regarde le taux de change. Mais là où il y a une différence, c'est sur la nature des produits taxés. Côté américain, il s'agit donc d'aluminium, d'acier et de marchandises qui en contiennent. Alors que côté européen, les nouveaux droits de douane porteront sur une liste encore plus large de produits comme les motos Harley-Davidson, le brandy ou encore les bateaux de plaisance, des produits emblématiques, disons, de la culture et de l'art de vivre américain. Ils avaient déjà été taxés en 2018, lors du premier mandat de Donald Trump, quand le président américain avait déjà voulu relever ses droits de douane. La nouvelle riposte européenne annoncée ce matin entrera en vigueur début avril.
Et l'Union européenne y va à contre-cœur.
Oui, on l'entendait ce matin dans la voix de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Elle déplorait d'abord et avant tout cette nouvelle offensive commerciale lancée par Donald Trump.
Nous regrettons profondément cette décision. Il s'agit de taxes. Elles pénalisent les entreprises autant que les consommateurs. Elles perturbent les chaînes d'approvisionnement. Elles rajoutent de l'incertitude économique. Des emplois sont en jeu. Les prix vont augmenter, personne n'a besoin de cela, ni du côté de l'Union européenne, ni de celui des États-Unis.
La Commission européenne tient à préciser que sa porte reste ouverte si à tout moment les Américains souhaitent revenir sur leur décision et étudier des alternatives aux barrières douanières désormais érigées des deux côtés de l'Atlantique.
Fabien Cazot, en direct de Bruxelles. Alors, on y faisait allusion à l'instant. Durant son premier mandat, Donald Trump avait déjà pratiqué la guerre douanière et l'Union européenne avait déjà répliqué. Mais avec quel résultat? L'éclairage d'Antoine Bouet, directeur du CEPI, le Centre d'études prospectives et d'information internationale.
Il y avait eu des représailles très vite mises en place par l'Union européenne et qui étaient proportionnées. Elle avait pour ambition de diminuer les exportations américaines vers l'Europe des produits qui étaient produits surtout dans des États républicains. Il y avait des jeans, il y avait des Harley Davidson, il y avait du bourbon, du jus d'orange aussi. Enfin, en fait, le jus d'orange c'est la Floride, le bourbon c'est le Kentucky. Et l'idée c'était d'avoir un impact politique sur l'administration américaine républicaine. Est-ce que ça a marché? Oui, parce que, en fait, assez rapidement, les droits de douane ont été arrêtés et on a mis en place un régime de commerce de l'acier et de l'aluminium à l'intérieur d'un quota. Les représailles sont faites pour ne pas enclencher la guerre commerciale. Donc, elles ont été efficaces.
Antoine Bouet, interrogé par Maria Melkurdi. Ce matin, la Chine promet elle aussi des mesures de rétorsion et dénonce une violation des règles de l'Organisation mondiale du commerce. Le Japon, lui, regrette de ne pas avoir été exempté. De la guerre commerciale à la guerre à haute intensité, les livraisons d'aide militaire américaine ont repris via la Pologne en direction de l'Ukraine. Première conséquence concrète de l'accord trouvé hier entre l'Ukraine et les États-Unis sur un cessez-le-feu de 30 jours avec la Russie. Le renseignement crucial pour les militaires est lui aussi de retour. Les Russes, eux, reprennent du terrain sur leur territoire dans la région de Koursk. 5 villages ont été repris aux Ukrainiens, très en difficulté. Et le Kremlin a donc réagi ce matin à la proposition américaine. Sylvain Tronchet, correspondant de France Inter à Moscou. Sylvain, le Kremlin attend donc d'être informé par Washington de sa proposition de trêve. C'est une façon de gagner du temps.
Oui, il semble qu'à Moscou, on soit effectivement en train de temporiser. Nous étudions les déclarations, nous attendons que les responsables américains nous informent directement. Dimitri Peskov, le porte-parole de la présidence, s'est bien gardé d'exprimer une opinion ce matin. Les mots ont leur importance. Le Kremlin ne prend même pas le soin de dire, par exemple, que cette idée de trêve est à tout le moins intéressante. Ce qui veut dire que, en l'état, on reste sur la ligne officielle que Vladimir Poutine a définie dès la fin janvier. Le pouvoir russe ne veut pas d'une trêve temporaire. Il veut ce qu'il appelle le règlement des causes profondes du conflit, en gros la démilitarisation de l'Ukraine, l'assurance qu'elle ne rentrera pas dans l'OTAN et, on le comprend entre les mots, un régime plus accommodant à Kiev. Et les commentaires dans la presse russe, à défaut de déclarations officielles, vont dans ce sens pour l'instant. Les experts pro-Kremlin interviewés disent que cette proposition américaine est un piège, qu'une trêve de 30 jours permettrait à l'Ukraine de reconstituer ses forces alors que l'armée russe avance. La télévision russe ce matin remettait même en doute la sincérité de cette proposition. Alors la position de la Russie peut encore évoluer, le Kremlin peut même faire une contre-proposition, par exemple, mais pour l'instant, rien ne change à Moscou.
Sylvain Tronchet en direct de Moscou, et les frappes continuent sur l'Ukraine. Un missile balistique a fait 4 morts sur le port d'Odessa, où vous vous trouvez, Virginie. Et là-bas, même l'idée d'une trêve semble bien lointaine.
Oui, nous avons rencontré ce matin à Odessa Grigory, 39 ans. Il a eu le droit de quitter le front au mois de janvier parce qu'il a 3 enfants et qu'il se battait depuis le début de la guerre à grande échelle dans les forces spéciales ukrainiennes. Évidemment, il a suivi ses pourparlers pour un cessez-le-feu, mais ce qui l'intéresse, c'est ce qu'il se passe sur le front où se battent toujours ses frères d'armes.
C'est là-bas que se passent les vraies choses. C'est sur la ligne de front qu'il y a des pertes, des victoires. Et tout ce qu'il se passe au-dessus, c'est de la politique, c'est du théâtre, du commerce, de la bourse, du business. Ce qu'on nous raconte le plus souvent ne correspond pas à la vérité.
Mais Grigory est entièrement d'accord. Il faut la paix et le plus vite possible, même s'il ne croit pas pour l'instant à un accord durable avec la Russie.
Bien sûr que tout le monde veut la paix, nos ennemis aussi, je parle des soldats. Franchement, parmi les gens qui se battent, qui font la guerre, qui tuent, je n'ai jamais vu quelqu'un qui souhaite que ça continue. Tous ceux que j'ai rencontrés souhaitent que ça se termine.
Selon Grigori, si un accord de paix reste possible avec la Russie, la guerre se poursuivra malgré tout, mais de façon hybride.
Virginie Pironon, en direct d'Odessa avec les moyens techniques de Martin Troadec. Faut-il ou non pousser à la saisie des avoirs russes gelés? Pour en faire quoi? C'est l'une des questions à laquelle répondront les députés cet après-midi lors de l'examen d'une proposition de résolution sur le renforcement du soutien à l'Ukraine. Le texte appelle l'Union européenne, l'OTAN et les autres pays alliés à poursuivre et à accroître leur soutien politique, économique et militaire à l'Ukraine face à, je cite, l'agression russe. Un deal, c'est ce que cherche aussi Donald Trump avec l'Iran, avec toujours la même tactique. Le président américain a envoyé une lettre aux dirigeants iraniens. Il se dit prêt au dialogue sur le nucléaire, mais en parallèle, il a établi de nouvelles sanctions contre le secteur pétrolier. Et puis en mer du Nord, le capitaine du porte-conteneur qui a percuté un pétrolier lundi est de nationalité russe. Il est interrogé par la police britannique. Le reste de l'équipage est russe et philippin. La collision a fait un disparu et déclenché un gigantesque incendie.
France Inter. Le 13-14, Christelle Rebière.
Il est 13h11, il se décline en tisane, bonbons, gâteaux, e-liquide pour les cigarettes électroniques. Le CBD, ce produit dérivé du cannabis censé apaiser le stress ou encore favoriser le sommeil, est partout. Mais il n'est pas sans effet sur la santé. En tout cas, il ne faut pas en prendre n'importe comment. L'Agence nationale de sécurité du médicament lance une mise en garde à la suite de plusieurs alertes venues des centres anti-poison, car il y a des interactions avec des médicaments, Victor Dolande, qui peuvent être dangereuses pour la santé.
Oui, 58 cas d'interaction avec des médicaments recensés par les centres antipoison entre 2017 et 2023 et 4 cas graves. Des interactions constatées avec 17 familles de médicaments comme les anticoagulants, les antidiabétiques, certains antidépresseurs également, des antiépileptiques. Et ces cas recensés sont très probablement sous-évalués, comme l'explique le professeur Joëlle Micalef, directrice du Centre régional de pharmacovigilance Marseille-Provence-Corse.
Devant un tableau clinique, qui va penser à interroger son patient de savoir s'il prend du CBD et est-ce que le patient lui-même va penser à en parler? On est face à une problématique où les chiffres donnés par l'Agence du médicament, hélas, minimisent sans doute l'ampleur de la situation.
Cette alerte de l'Agence du médicament est extrêmement importante, notamment en termes de prévention. Il est donc crucial, si vous avez des traitements et que vous prenez du CBD, d'en parler à votre médecin.
Il est important de questionner son patient et d'échanger avec lui sur, petit 1, la totalité des médicaments qu'il prend et également la totalité des autres produits qu'il prend. Et donc, il suffit d'en parler, il y a un échange à cette occasion-là. Donc ça, c'est pour faire de la prévention.
Prévention indispensable également pour les professionnels de santé. Comme il y a de plus en plus d'utilisateurs de CBD, les soignants doivent avoir le réflexe d'intégrer dans leur questionnaire aux patients ces produits au cannabidiol, car ils peuvent agir sur d'autres traitements.
Il avait retenu en otage 3 employés de banque en les menaçant avec un couteau. C'était dans une agence à Romilly-sur-Seine dans l'Aube hier. Le GIGN avait dû intervenir en fin d'après-midi. Le jeune homme de 24 ans responsable de cette attaque a dû être hospitalisé en psychiatrie. Sa garde à vue a été levée. Des parents mobilisés de la Bretagne au Gard en passant par la Moselle ou encore le Berry. La carte scolaire est dévoilée peu à peu avec son lot de fermetures de classe. Alors partons dans les Landes. À Luc Bardez et Bardez, près de Mont-de-Marsan, 600 habitants, mais la population doit croître puisqu'une gare de la future LGV doit y être installée. Or, une classe doit fermer. Reportage Sophie Allemand.
Cette classe en moins, à la sortie de l'école, même les enfants sont contre.
Les petits viennent d'arriver, le maître aussi, donc ça serait triste.
Moi je pense que c'est nul de fermer la classe, surtout de CE1, surtout que sinon on va être trop dans les classes.
Virginie Dambron, la présidente des parents d'élèves, est bien de cet avis. Son fils est en CM1, il est suivi par une AVS pour ses troubles 10 et son hyperactivité.
Peut-être que sur Mont-de-Marsan, où ils sont plus de 30 élèves, il aurait peut-être été mis sur le côté et pas aidé, comme là ils aident les enfants avec des troubles. Ils les poussent à aller de l'avant. C'est très bien. Franchement, ils ont un accompagnement assez global et ils s'intéressent aux enfants, quoi. Ils se dépêchent pas, ils en mettent pas un à côté du radiateur en me disant « c'est bon, j'en ai 30 qui foutent le bordel à côté et pas les miens ».
Et tout le conseil municipal de Luc Bardez s'oppose à cette fermeture de classe. Ça serait incompréhensible pour le maire Claude Couma puisque deux projets annoncent une hausse de la population dans sa commune.
On a 4 hectares où il y aurait une trentaine de maisons. Le lotissement, il est prévu. Il y a le projet de la gare LGV sur la commune de Luc Bardez. On va être à demi-heure de Bordeaux, donc oui, ça va traîner du du monde en plus. J'ai plus besoin de mon école que de mon cimetière.
116 élèves sont prévus dans l'effectif à la rentrée prochaine, seulement 3 de moins que cette année. Et des inscriptions de dernière minute sont attendues pour les enfants des militaires de la base de Mont-de-Marsan.
Sophie Allemand, ici Gascogne. L'état de catastrophe naturelle reconnu dans 24 communes de l'île de la Réunion. Elles avaient été dévastées par le passage du cyclone Garance. Toutes avaient été inondées. Le processus d'indemnisation peut donc démarrer. Les océans, on le sait, sont de plus en plus menacés par le plastique, très majoritairement, 78%. D'autant que leur durée de vie est très longue et que les microplastiques s'incrustent partout. Mais on n'a jamais mesuré la réalité de cette pollution au fond de la Méditerranée. Bonjour Sophie Becherel.
Bonjour.
Eh bien, une expédition dans la fosse Calypso, le point le plus profond, vient de quantifier pour la première fois cette pollution marine.
Oui, des bouteilles d'eau minérale, des sacs plastiques, des canettes. 167 objets ont été recensés dans cette fosse Calypso à 5122 mètres de profondeur. C'est l'endroit le plus profond de la Méditerranée, vous l'avez dit, à 60 km au large de l'île Céphalonie, non loin du Péloponnèse. Cette fosse étroite de 20 km de long est l'un des endroits les plus inaccessibles et pourtant un dépotoir de l'humanité. À 88%, ces déchets sont en plastique, un matériau qui ne se décompose pas, il se fractionne seulement. L'équipe de scientifiques internationale a calculé une moyenne de 224 déchets à l'hectare, l'une des plus fortes concentrations jamais relevées. Ces détritus viennent du littoral, mais aussi de navires qui les ont passés par-dessus bord. Une ligne rectiligne de sacs remplis de déchets en atteste. Aller dans ces profondeurs nécessite des moyens logistiques compliqués et donc coûteux. Il n'y a pas donc beaucoup d'inventaires de la sorte. Ici, c'est un sous-marin habité, le Limiting Factor, opéré par un milliardaire américain passionné d'exploration sous-marine qui a permis ce travail. L'étude montre que ces détritus n'impactent pas la vie sous-marine rare, il est vrai, à cet endroit, deux espèces seulement repérées. Néanmoins, plaident les auteurs de cette étude, il y a urgence à fermer le robinet de la pollution marine. Invisible, elle ne doit pas être oubliée. Ce qui se joue, c'est la préservation des espèces naturelles et au-delà, notre santé, puisque nous mangeons en bout de chaîne ces poissons bourrés de plastique.
Merci Sophie et bon appétit. Et dans la série des attaques de Donald Trump contre le climat, l'Agence nationale des océans aux États-Unis interdit depuis un mois tout échange avec les chercheurs français de l'Ifremer. Un choc après 55 ans de coopération. L'Ifremer va tenter de récupérer des scientifiques américains. La relève, enfin, une nouvelle mission habitée doit s'envoler ce soir vers la Station spatiale internationale à bord du vaisseau SpaceX. Butch Wilmore et Sonny Williams, deux vétérans de l'espace, étaient partis pour 8 jours en juin dernier. Mais les défaillances du vaisseau de Boeing les a laissés en orbite au-dessus de nos têtes depuis 9 mois. Cette fois, 4 astronautes vont partir. Si tout va bien, leur retour est prévu pour dimanche. Eux aussi, ils doivent partir et c'est tout un chamboulement. Toute une maison de retraite a déménagé en Dordogne, près de Saint-Astier. 165 résidents partis tous en même temps vers un EHPAD flambant neuf. Alors tout le monde s'y est mis, la mairie, des ambulanciers. Marc Bertrand est même monté avec eux dans le bus direction le nouvel EHPAD. De l'autre côté de la rue.
Les résidents sortent au bras des aides-soignantes à la sortie de l'ancienne EHPAD. Carole les fait monter dans son minibus.
Je suis l'animatrice de Mussidan. Je viens aider à déménager. Et là, nous allons faire entrer Monsieur Ponce. N'ayez pas peur, mettez un pied d'abord. Voilà.
C'est plein.
Ah, c'est
parti. Yvette, Yo, de son surnom, regarde par la fenêtre la maison de retraite qui s'éloigne.
Vous êtes un peu triste de partir ou pas?
Mais non, on a bougé, vous savez, avec l'âge qu'on a.
Mais dites donc, vous allez dans un palace là? Oh là là.
Devant nous, à l'entrée du nouvel EHPAD, les soignants nous font des grands coucous avec les bras.
Voilà.
Et puis on est accueillis, voilà.
Yvette descend, Thérèse et les autres aussi. Chacune a un petit bracelet avec son nom.
C'est surtout stressant, parce que quand on change de bâtiment comme ça, surtout de chambre, on avait nos petits repères et d'un seul coup, paf.
Dans les couloirs, il y a du monde partout. On déménage les lits médicalisés. Nadia cherche la chambre de sa belle-mère.
La 18, à droite. Ça n'a rien à voir avec le bâtiment qui était en bas.
Ça, c'est
les petits bibelots de la belle-mère pour se sentir chez elle. Une petite poupée, une peluche, un petit vase avec des fleurs.
Elle va être bien.
Il va juste falloir attendre quelques jours pour avoir la télé.
Reportage signé Marc Bertrand, d'ici Périgord, à l'étranger, assassinat ou mort inéluctable. 4 ans après la disparition de Diego Maradona, le procès de 7 professionnels de santé s'est ouvert hier à Buenos Aires pour manquement ayant pu contribuer au décès de l'idole. L'Argentine va vibrer à chaque témoignage durant des semaines. Caroline Vic est la correspondante de France Inter et elle s'est glissée dans la foule devant le tribunal.
Face au tribunal de Saint-Isidro dans la banlieue de Buenos Aires, des dizaines de journalistes ainsi que des supporters avec leurs drapeaux et leurs tambours. Parmi les maradoniens présents, Sergio, 46 ans.
Tous ceux qui l'ont entouré, ils se fichaient de lui alors qu'ils avaient la possibilité de le sauver. Ils doivent payer pour ça. Moi, j'aurais quitté ma famille pour le soigner. J'aurais donné ma vie pour être à ses côtés.
Dans la salle d'audience, la famille de Maradona, visiblement émue, est confrontée aux 7 accusés. Médecins, psychiatres, psychologues et infirmiers, tous accusés d'avoir laissé mourir la légende argentine. Fernando Burlando, l'avocat des filles aînées de Diego Maradona.
Au lieu de l'emmener dans une clinique, ils l'ont trompé et lui ont dit qu'il serait bien soigné dans une maison qui était en fait un taudis, sans aucun équipement. Il était entouré d'inconnus, éloigné de sa famille. Il est évident que Diego a été assassiné.
L'équipe médicale aurait ignoré des signaux comme des gonflements, de la rétention d'eau et d'étranges ronflements. Il n'aurait pas non plus pris en compte ses pathologies, lui prescrivant des médicaments incompatibles avec son insuffisance cardiaque et ses problèmes d'addiction. Pendant 4 mois, le procès va tenter de déterminer s'il y a eu négligence de la part de cette équipe de professionnels. Les accusés risquent entre 8 et 25 ans de prison. À Buenos Aires, Caroline Vic pour France Inter.
Et si Maradona était un dieu du foot, eux ont été des princes. Hier soir, les joueurs du PSG vainqueurs à l'issue d'un match d'anthologie de Liverpool. 4-1 à Anfield et une place en quart de finale de la Ligue des Champions. L'ancien champion du monde, Vicente Lizarazu, salue une performance majuscule.
C'est pour moi l'un des plus grands exploits de l'histoire du club. Le PSG a été dominateur, on va dire, 3 mi-temps sur 4, sur les deux confrontations. Ils ont montré leur talent, leur qualité technique. Et ce qui a été vraiment intéressant sur ce retour, c'est qu'ils ont résisté sans oxygène parce que sur la deuxième période, Liverpool a poussé de façon incroyable et le Paris Saint-Germain a énormément souffert. Ils n'ont pas craqué. Ils ont créé un collectif vraiment soudé, très solide et ils ont eu plus de sang-froid sur les tirs au but. Donc aujourd'hui, on a une vraie référence. C'est comme dans les arts martiaux, c'est ceinture noire contre ceinture noire. Ils ont montré qu'ils étaient plus qu'au niveau.
Vicente Lizarazu, interrogé sur France Info par Jérôme Chapuis. En quart, le PSG se retrouvera face à Aston Villa ou Bruges. Les Lillois, eux aussi, espèrent rêver plus grand ce soir sur leur pelouse face à Dortmund. Atteindre les quarts, ce serait inédit pour le club qui a 80 ans.
Moteur.
T'as de bons yeux, tu sais.
C'est tout joli, mes fesses.
Les sorties cinéma du mercredi. Bonjour Alexis Demeyer.
Bonjour Christelle.
On part à Las Vegas avec vous pour commencer avec The Last Showgirl.
You have an act prepared?
I do. I'm a dancer.
Music?
I gave it to the maestro.
La voix de Pamela Anderson, l'ex-star d'Alerte à Malibu, interprète ici Shelly, une danseuse de cabaret qui se retrouve au pied du mur quand son spectacle, à l'affiche depuis plusieurs décennies à Vegas, est supprimé. C'est Gia Coppola, petite fille du réalisateur du Parrain et nièce de la réalisatrice de Marie-Antoinette, j'espère que vous suivez Christelle,
oui,
qui réalise ce joli film sur le corps féminin. Malgré des tics de réalisation façon ciné-indé Sundance, dont on se serait bien passé, Gia Coppola a la bonne idée de filmer la presque sexagénaire Pamela Anderson, qui signe là une performance très convaincante, évoquant celle récente de Demi Moore et Nicole Kidman dans The Substance et Baby Girl, avec en ligne de mire une référence ultime et inaccessible, le chef-d'œuvre Sunset Boulevard de Billy Wilder.
Direction Naples à présent pour la nouvelle folie signée Paolo Sorrentino.
Oui, le cinéaste italien multi-récompensé est de retour avec Partenope. La vie d'une femme libre, de sa jeunesse à sa vieillesse, de Naples à Capri, voilà en gros le scénario de ce mélodrame que je trouve un peu vain et surtout sacrément misogyne. Sorrentino, avec son habituel sens de la mise en scène tape à l'œil, tente ici un parallèle entre le destin d'une Italienne et celui d'une ville, Naples, avec des intentions poétiques et philosophiques qui m'ont personnellement laissé de marbre.
Oui, on l'entend. On part en Norvège pour la convocation réalisée par le petit-fils d'Ingmar Bergman.
Oui, c'est le premier long métrage d'Alfdan Ullmann Tondel qui a d'ailleurs été récompensé de la Caméra d'Or à Cannes en mai dernier. La convocation qui donne son titre à ce thriller psychologique, c'est celle de parents d'élèves dont les enfants respectifs s'accusent de harcèlement scolaire. Quel plaisir de retrouver dans le rôle principal la comédienne norvégienne Renate Rensve qui crevait l'écran dans Julie en 12 chapitres. Le dispositif, un huis clos dans une école, fonctionne bien, mais les dialogues et les artifices de mise en scène gâchent un peu le propos, pourtant passionnant.
Et on termine ce petit tour du monde cinéphilique en Grèce.
Vers un pays inconnu, c'est le titre de cette jolie chronique sociale sur la crise migratoire. Shatila et Reda sont en effet deux exilés palestiniens qui tentent de survivre dans les rues d'Athènes, quitte à commettre l'irréparable. Jamais manichéen est très bien écrit, ce film signé Madi Fleffel mérite vraiment le détour.
Et encore beaucoup d'autres choses en salle ce mercredi, c'est une semaine très riche.
Ouais, The Insider, un thriller d'espionnage réalisé par le grand Steven Soderbergh. Blue Sun Palace, un drame social dans le milieu des salons de massage chinois de New York. Et Renmer, une tragicomédie franco-tunisienne avec Camélia Jordana et Damien Bonnard.
Merci Alexis. Il est 13h26 sur Inter. Dans la prochaine demi-heure, on prend le train. La SNCF vient d'ouvrir sa billetterie pour cet été. Mais quel est le juste prix? Êtes-vous sûr de l'obtenir en vous y prenant dès maintenant? En fait, on a du mal à s'y retrouver dans des tarifs totalement opaques. Alors, on va parler de ce que l'on appelle la tarification dynamique selon l'offre et la demande. Comment ça fonctionne? Y a-t-il des astuces? Vos questions sont les bienvenues. 01 45 24 7000. La météo d'Olivier Proust avec un petit coup de frais. Le feuilleton de la semaine à Angers avec la construction d'un futur centre pénitentiaire. C'est la France avec vous, Éric Fotorino. Bonjour.
Bonjour Christelle.
Aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, eh bien, on va parler de Dreyfus et particulièrement de son caractère bien plus trompé qu'on l'a dit souvent pour comprendre comment il ne succomba pas à ses 5 années de relégation sur un îlot du bout du monde.
Et dans C'est une chanson, Frédéric Pommier ?
Eh bien, nous irons à la rencontre de la romancière Barbara Israël qui vient de publier un nouveau roman chez Flammarion, La beauté des ruines. Et avec elle, c'est une chanson des Smiths que nous écouterons, un groupe qui a beaucoup compté dans son adolescence et qu'elle continue d'écouter aujourd'hui.
Merci Frédéric, à tout de suite.
Un hôtel de rêve au cœur d'un champ de lave islandais. Les Snéberg sont riches et puissants. Ils se retrouvent pour une réunion de famille sous haute tension. Soudain, une disparition. Dans le clan Snéberg, Eva Björg et Gisdottir, la révélation du polar islandais, nous fait douter de tout et de tous. À chaque nouvel indice, vous penserez avoir trouvé le coupable. Mais entre mensonges et secrets de famille, saurez-vous résoudre l'énigme? Le clan Snéberg, disponible en poche aux éditions Point.
France Inter, partenaire du Grand Prix Poésie RATP 2025, présidé par Alexis Michalik.
Si vous croyez vous aussi à la magie des mots, participez au Grand Prix Poésie RATP. J'ai hâte de découvrir vos poèmes et de sélectionner ceux qui auront la chance d'être affichés cet été dans le métro parisien.
Pour participer, rendez-vous jusqu'au 15 avril sur grandprixpoésie.ratp.fr et sur franceinter.fr. Le Grand Prix Poésie RATP, un événement France Inter.
La météo.
La météo avec Utopia. Camping, tente et cabane en pleine nature pour des séjours inoubliables, par tous les temps. À réserver sur utopia.com.
Bonjour Olivier Proust.
Bonjour.
Une ambiance plus fraîche qui continue de progresser vers le sud.
Et oui, sous un ciel gris et quelques pluies, les températures sont maintenant en nette baisse du nord de l'Aquitaine vers Grand Est. Après la douceur d'hier, on n'attend plus que 8 à 10 degrés de La Rochelle à Strasbourg, à Orléans ou à Nantes par exemple. Plus au nord, l'air frais est déjà installé et sous quelques timides éclaircies, entrecoupées de rares averses, on attend également 9 degrés de Brest à Lille ou à Paris. Et le temps reste instable dans le sud. Un air relativement doux résiste encore des Pyrénées aux Alpes et à la Méditerranée, avec encore cet après-midi 14 à 18 degrés et des averses orageuses qui se développent. Elles épargnent cette fois-ci le golfe du Lion jusqu'aux Bouches du Rhône, protégées par une petite tramontane. Dans l'ouest corse, les cumuls sont importants. Et demain, le refroidissement se poursuit. On surveille de la neige en plaine dans le nord-est, tenant au sol à basse altitude. Ailleurs, des giboulées, plus fréquentes et plus fortes qu'aujourd'hui dans le nord, parfois même mêlées de quelques flocons en plaine. Au sud, un temps plus sec revient sur le continent, mais les pluies restent copieuse en Corse.
Donc si je résume, on remet le bonnet et l'écharpe et les gants.
Et on reparlera de neige un peu. Hein.
D'accord. Merci beaucoup Olivier.
France Inter, le 13-14. Christelle Rebière.
Vous avez peut-être fait partie de ceux qui ont mis une alarme sur leur réveil à 6h pile ce matin, histoire d'être dans les premiers à réserver votre voyage en train cet été. La SNCF a mis en ligne les billets pour les TGV Inouï Intercité pour la période du 5 juillet au 31 août et même jusqu'au 13 décembre sur l'axe sud-est. Alors, vous espérez faire une bonne affaire, mais ce qu'on appelle la tarification dynamique recèle des écueils et souvent on ne comprend pas pourquoi on a payé notre billet billet 2 à 3 fois plus cher qu'un autre voyageur situé dans la même voiture que nous. Alors on va essayer d'y voir clair dans ce que les entreprises considèrent comme un véritable secret industriel. Bonjour Patricia Perrenne.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes économiste, vous avez travaillé longtemps à la SNCF et vous êtes aussi aujourd'hui consultante pour le cabinet Transmission. Nous sommes aussi en ligne avec François Delétraz. Bonjour.
Bonjour.
Président de la FNOT, la Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports. Et bien sûr, toutes vos questions sont les bienvenues. Standard d'Inter 01 45 24 7000 ou sur l'appli France Inter. Alors d'abord, Patricia Perrenne, la tarification dynamique, baptisée aussi en anglais le yield management, ça date de quand ?
En gros, ça date du développement de l'informatique, années 80 aux États-Unis et puis années 90 en France. Bon. C'est à ce moment-là que ça se développe parce qu'on a des méthodes de calcul et des outils de calcul qui permettent de mettre en place cette tarification.
Ça consiste en quoi ?
En fait, ça consiste à faire varier le prix en fonction de l'offre et de la demande de façon assez fine. Voilà. Et du coup, ça va essayer, en fait, par cette tarification, de deviner un peu votre profil d'acheteur. Est-ce que vous êtes prêt à payer beaucoup ou pas pour vous proposer des tarifications différentes, voilà, selon votre profil d'acheteur.
C'est-à-dire, quel est le profil de l'acheteur ?
Alors, par exemple, est-ce que vous êtes un pro ? C'est-à-dire quelqu'un qui fait un déplacement pour son entreprise.
Pour le business,
quoi. Pour le business. Mmh. Donc, vous ne payez pas vous-même. Le billet, il est cher, à la limite, ce n'est pas très grave. Ça sera en note de frais. Par contre, si au contraire, vous êtes une famille qui s'est levée à 6h du matin pour réserver votre billet aujourd'hui, peut-être que votre capacité à payer est plus faible et du coup, là, si le billet est trop cher, vous prendrez la voiture et du coup, à vous, il vous propose un petit prix. Et donc voilà, tout le yield management, c'est cette espèce de cuisine qu'elle a derrière pour essayer de faire la différence entre le pro qui peut payer beaucoup et puis la famille optimisatrice de budget qui risque de basculer sur la voiture si on lui fait un tarif trop cher.
Alors c'est vrai qu'on voit beaucoup dans les transports, on parle de la SNCF, hein, mais il y a aussi les compagnies aériennes et bien d'autres domaines. Le e-commerce, les sports, les concerts, on y viendra tout à l'heure d'ailleurs, les entrées dans les parcs d'attractions et même désormais, j'ai vu qu'il y avait des tarifs dynamiques sur les remontées mécaniques là, pour les sports d'hiver. Comment définit-on le tarif de base, Patricia Perrenne ?
Le tarif de base, en fait, l'idée c'est les secteurs que vous avez cités, la plupart des... Enfin, c'est des secteurs dans lesquels, en fait, si c'est pas vendu, c'est perdu. Je sais pas si l'idée est claire, mais si le train y part et que le siège il est vide, ben voilà, on a perdu l'argent. Du coup, à la limite, on pourrait se dire que le tarif minimum, c'est... Bon, il faut mieux avoir une personne qui a payé pas cher que... qu'absolument aucun voyageur.
Oui.
Donc c'est ça la difficulté, c'est on pourrait baisser très très bas, et en même temps, si la SNCF vendait des billets à quelques euros, ben ça, voilà, ça braderait et ça dévaloriserait le produit. Donc c'est ça qui n'est pas facile, et c'est là que c'est toute la science de, bon, on l'a dit, la SNCF, mais aussi les chaînes hôtelières, mais aussi les parcs d'attractions, de se dire, bon, voilà, il faut, le parc d'attractions, il faut mieux qu'il y ait tout plein de gens, que le parc soit plein, c'est toujours ça l'idée. À quel point on brade ? Parce que si on brade trop, les gens vont dévaloriser le produit, vont attendre le petit prix. Donc voilà, le tarif minimum pour les TGV, on va avoir des billets à 20 ou à 30 euros, hein, pour être très concrète.
Mais là, on arrive dans le secret des algorithmes, en fait.
Exactement. Là, c'est vraiment... Alors, vous avez dit que je travaillais à la SNCF. Attention, moi, je ne travaillais pas du tout sur ces questions-là. Je travaillais sur des questions rien à voir d'infrastructure. Et
oui,
effectivement...
mais on peut dire que vous connaissez un peu le milieu, quand même.
Oui, c'est ça, je connais le milieu. Mais c'est-à-dire, je n'ai pas de secret, parce que justement, les secrets sont bien gardés. Et si j'avais travaillé pour SNCF, j'aurais évidemment pas le droit de vous raconter des choses là-dessus, parce que leur capacité de gagner de l'argent, et l'État leur demande de gagner de l'argent, dépend beaucoup de la finesse et de la pertinence de leur yield management.
Ça veut dire que chaque entreprise a son algorithme qui est adapté à son activité ?
Oui, clairement, en tout cas pour SNCF, si on regarde historiquement, ils ont développé à partir d'un logiciel américain qui était fait pour American Airlines, ils l'ont adapté chez eux, ils l'ont revu plusieurs fois, et effectivement, en fait, même les données passées, des achats passés, ça va alimenter voilà, le modèle et comment on l'affine. Donc oui, c'est quelque chose qui est spécifique à SNCF. Alors, c'est peut-être pas le cas pour toutes les petites chaînes hôtelières, mais à partir du moment où on a un gros client, oui, évidemment, le yield management est adapté.
Mais y a-t-il des barèmes minimum et maximum pour la SNCF ?
Oui, oui. Si ça intéresse les auditeurs, vous allez sur Internet, ça se trouve.
Ça se trouve où ?
Ça se trouve, alors c'est Open Data SNCF, vous tapez tarif TGV Inouï, et vous allez trouver, il y a vraiment tarif minimum, tarif maximum. Voilà, c'est des choses qui sont...
Parce qu'au moment où on réserve, évidemment, ça n'apparaît nulle part, ça.
C'est ça. Mais vous pouvez les trouver, j'ai regardé encore pas plus tard que ce matin, pour justement constater est-ce qu'on était déjà au prix maximum sur certains trains. Voilà. Donc j'ai retrouvé l'information facilement, et effectivement, ce matin, même très tôt ce matin, il y avait déjà des tarifs au maximum, quoi.
Bah on va y venir, justement. On est en ligne avec Jean, qui nous appelle de Montpellier. Bonjour, Jean.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Oui, merci. Justement, j'ai une question plutôt une remarque d'abord très précise.
Ils vont inaugurer le mois prochain une ligne d'aviation, je ne vais pas citer la marque, mais enfin une marque low cost assez connue qui va faire directement Montpellier et Bruxelles. Mmh. Avant, il fallait passer par Marseille, par Nîmes, enfin maintenant c'est direct. Et donc, comme j'ai de la famille là-bas, je suis amené à y aller de temps à autre, donc j'ai évidemment regardé. Ça va me coûter, je ne sais pas si je peux dire le prix, enfin bon, soit 60 euros ou 70 maximum.
Oui.
Et j'ai regardé en train, et évidemment ça me mettra 2h30. Mmh. En train, ça me mettra à 5h30. Et franchement, j'ai regardé encore avant de prendre l'antenne, pour être sûr de ne pas dire de bêtises, c'est au minimum 125 euros. Il y a les tarifs affichés à SNCF de 70 et de 99, mais on les trouve pas, ces tarifs-là. Donc mm-hmm. c'est au minimum 125 euros, ce qui veut dire le double du prix.
Oui, alors, oui, donc moi, effectivement, pourquoi des tarifs aussi élevés alors que finalement l'avion est moins écologique? François de Lettraze.
Le fait de l'écologie n'a rien à voir dans le prix. à savoir
non, mais vous comprenez la tentation.
Oui, bien sûr, mais elle est normale. Mais bon, le train, il utilise une infrastructure qui sont les rails, et ça se paye. Et en France, contrairement à plein d'autres pays européens, c'est le passager qui paye l'infrastructure ou une grande partie de l'infrastructure. Et donc ça se reporte sur le prix du billet, alors que l'avion, sa seule infrastructure, c'est l'aéroport d'arrivée, l'aéroport de départ et les contrôleurs du ciel. Mm-hmm. Donc vous voyez qu'il y a déjà une différence structurelle qui est très importante.
Mais vous voulez dire que les compagnies aériennes ont fait aussi beaucoup de mal à la SNCF sur les tarifications, puisqu'on peut trouver des prix extrêmement bas pour les compagnies aériennes aujourd'hui?
Ça dépend des distances. Quand vous avez une offre ferroviaire de bonne qualité, rapide, facile d'usage, et même si le prix est un peu cher, l'avion n'existe plus. Mmh. Regardez ce qui s'est passé entre Paris et Lyon, Paris et Strasbourg, Paris et Londres, Paris et Bruxelles. Il n'y a plus d'avion. Ça veut dire que l'offre ferroviaire, à partir du moment où elle est là, elle tue l'avion. En revanche, sur des distances plus longues, l'avion a toute sa pertinence et il est souvent moins cher que le train, il faut le reconnaître.
Mmh. Patricia Pérenne.
Oui, moi je rejoins ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'il y a des conditions économiques qui sont différentes. Les aéroports, bon, il y a moins de taxation du kérosène aérien, ça c'est une réalité, c'est connu, Greenpeace en a notamment pas mal parlé. Il y a également la question de l'infrastructure, parce qu'en fait les petits aéroports, notamment ceux dont parlait votre auditeur, parfois les collectivités les subventionnent, ce qui permet d'en réduire les coûts. Et après, bon, sur la comparaison, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui, parce qu'il nous donne un prix de 120 euros, mais probablement il n'a pas pris le tarif carte avantage. Et puis dans son calcul, je ne sais pas combien ça coûte de rejoindre l'aéroport de Bruxelles au centre-ville, mais à tous les coups, il faut rajouter 10, 20 euros. Et donc au final, on doit avoir des prix qui sont plus ou moins comparables, si vous avez une carte avantage d'un côté, et de l'autre côté, si vous prenez bien, aller jusqu'à l'aéroport et revenir de l'aéroport au centre-ville. Mmh. Mais c'est vrai qu'effectivement, et là je rejoins tout à fait la FNOT, qu'il y a quand même un souci en termes d'équivalence économique, que ça soit sur la taxation du kérosène ou, comme ça a été très bien dit, sur le fait que l'infrastructure, les péages, ce que payent les trains quand ils circulent sur le rail, bon, en France, c'est pas très subventionné. Et du coup, c'est le voyageur qui paye.
Ça coûte cher. Ça représente 40% du prix.
C'est ça, 40% environ du billet TGV.
François de Lettraze, puisque vous représentez les usagers des transports, les réservations ont ouvert donc pour la SNCF à 6h ce matin. Est-ce qu'on va tous trouver un billet de train à un prix attractif d'ici ce soir?
Alors c'est pire que ça, vous ne trouverez pas tous un billet de train tout court.
Ah pourquoi?
Parce qu'il n'y a pas assez d'offres par rapport à la demande et que vous allez voir que ce soir, il y a déjà des trains qui vont être complets et que donc, à certaines dates, vous ne trouverez, même à petit prix ou à grand prix, vous ne trouverez aucune place sur certains trains.
Il y avait des trains complets très tôt ce matin, hein.
Bien sûr, on a un vrai problème d'offre en France. Il faut savoir que l'offre du TGV Inouï a baissé de 10% en 10 ans. Celle de Ouigo a un peu augmenté, mais on a une carence de l'offre par rapport à la demande aujourd'hui.
Mmh, mmh. Mais est-ce qu'on peut tous trouver un prix intéressant, à défaut de trouver un train au moins? Si, parce qu'on se dit, je m'y prends le premier jour, donc a priori, je vais bien me débrouiller.
Ça dépend si vous êtes un occasionnel ou si vous avez une carte avantage ou une carte liberté.
Est-ce que
si
la carte avantage est vraiment un avantage?
Ah ben oui, bien sûr, parce que la carte avantage, les prix sont plafonnés. Le prix maximum d'une carte avantage pour un trajet de plus de 3 heures, c'est 89 euros. Alors que sur un Ouigo, où la carte avantage marche pas, le prix maximum, c'est 109 euros. Mm-hmm. Donc vous voyez déjà, là, il y a une différence. Mm-hmm. Et sur les TGV Inouï, les porteurs de carte avantage ont toujours ces plafonds qui sont là, même si le train est quasiment plein, alors que celui qui n'a pas la carte, eh ben, il paye le tarif maximum.
Mm-hmm. Pourquoi, on se retrouve à côté côté de personnes qui ont payé deux à trois fois plus cher ou moins cher les uns par rapport aux autres. Parce que ça, c'est vrai que c'est vraiment le truc qu'on a du mal à comprendre, François de Lestrade.
Oui, mais alors c'est une explication toute simple, c'est que le yield management, donc la tarification dynamique, permet d'augmenter le chiffre d'affaires du train et permet de faire des petits prix. On va prendre un exemple tout simple. Vous avez 100 places dans un avion, dans un train. Vous les vendez 50 euros. Vous avez 5000 euros de chiffre d'affaires. Si vous commencez à vendre 10 billets à 20 euros, 10 billets à 30, 10 billets à 40, 10 billets à 60, etc., etc., jusqu'à 100, vous avez 5400 euros de chiffre d'affaires. Donc la société, grâce à la tarification dynamique, elle va gagner 400 euros de plus. Mais surtout, il y a un tiers des passagers qui vont payer le billet moins que 50 euros. Mmh. Donc il y a du pour et du contre.
Mmh, mmh. Oui, c'est-à-dire que de temps en temps, on gagne et de temps en temps, on perd, en fait.
Exactement.
C'est ça, au fond, c'est ça le yield management.
Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Est-ce qu'on va avoir un prix intéressant? J'allais répondre exactement à l'appareil que François. C'est-à-dire, ça dépend. Mmh. Si vous acceptez de ne pas partir le samedi, par exemple, qui sont les jours où il y a le plus de demandes, mais que vous acceptez de partir un dimanche ou un lundi, ben oui, ce matin, vous aurez des petits prix. Par contre, si vous devez absolument partir le samedi parce que vous voyagez du samedi au samedi, parce que la location, c'est du samedi au samedi, l'été, bon, ben, dans ce cas-là, même ce matin, vous aurez le prix au tarif maximum. Par contre, vous serez sûr d'avoir une place. Alors que si vous voyagez une semaine avant, ce n'est pas certain.
Mmh. On a une question de Jean-François sur l'application France Inter. Il dit « Pourquoi le tarif n'est pas indexé au nombre de kilomètres parcourus et de type de train, Patricia Perrel ?»
En fait, ça l'est indirectement, parce que le prix maximum dont je vous parlais tout à l'heure, il est fonction du nombre de kilomètres parcourus, il est décroissant en fonction du nombre de kilomètres parcourus. On a parlé de la carte avantage aussi, en fonction de la durée du voyage, le tarif augmente. Donc il y a déjà ce phénomène de décroissance, mais il n'y a pas que ça. Il y a effectivement des histoires d'offres et de demandes. La distance, ça donne la fourchette entre le prix maximum et le prix minimum. Voilà, en gros, c'est ça. Par contre, après, comme il y a une grande variation, on peut très bien avoir des trajets plus longs qui, à un moment, vont être moins chers que des trajets plus courts. Bon, mais ça arrive. Mais c'est vraiment parce que SNCF, ça lui permet de gagner plus d'argent. Et il faut le rappeler, c'est l'État qui demande à SNCF de gagner de l'argent. Et ce yield management, ça permet à la fois de faire des petits prix, de remplir les trains et de dégager plus de chiffre d'affaires pour SNCF. Mmh.
Et l'ouverture à la concurrence tire les prix vers le bas. Hein. Il y a Trenitalia, il y a la Renfe aussi espagnole. Trenitalia va d'ailleurs se lancer à partir du 15 juin sur le Paris-Marseille. Est-ce que eux, ils ont une tarification dynamique qui est différente de la nôtre, François de Lestrade?
Non, ils ont la même tarification dynamique ils ont leur propre tarification dynamique, mais ça revient au même. Mais en fait, ils ont un avantage colossal, c'est qu'ils ne doivent pas faire de bénéfices en fin d'année pour les redonner à l'État, puisque l'État italien et l'État espagnol acceptent que ces sociétés perdent de l'argent. Mmh. Donc du coup, ils peuvent pratiquer des prix qui sont beaucoup plus bas que SNCF.
Mmh. Y a-t-il des astuces pour voyager au meilleur prix aujourd'hui que vous pouvez nous donner, François de Lestrade?
L'astuce, il n'y a pas d'astuce miracle. L'astuce, la carte la plus évidente, c'est la carte avantage. Mais la carte avantage, elle marche pour les jeunes, pour les seniors et pour ceux qui, entre 25 et 60 ans, voyagent avec une nuit du week-end dans leur voyage.
Oui.
Donc, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, alors c'est un peu compliqué à expliquer, il faut faire, quand vous allez souvent au même endroit, que vous êtes entre 25 et 60 ans et que vous n'avez pas la carte avantage, vous ne pouvez pas l'utiliser, il faut faire ce qu'on appelle des billets croisés.
Mm-hmm.
Alors imaginez, vous allez à Montpellier cette semaine et vous y retournez la semaine prochaine, mais vous faites l'aller-retour en semaine. La carte avantage ne marche pas. Vous allez acheter votre Paris-Montpellier de cette semaine et votre retour de la semaine prochaine Montpellier-Paris.
Oui.
Et à Montpellier, vous allez acheter votre Montpellier-Paris de cette semaine et votre retour Paris-Montpellier la semaine prochaine.
Pardon, mais alors là, c'est un peu compliqué quand même. Hein, je voudrais pas dire, mais...
Simplement, réservez tôt, prenez la carte avantage.
Voilà, mais bon, la SNCF va être furieuse qu'on explique l'histoire du billet croisé, parce que pour eux, c'est une perte nette immédiate. Hein.
Oui, mais nous, on a besoin de savoir quand même. Je voudrais juste... on n'a pas le temps de prendre Denis qui était en ligne et je m'excuse auprès de lui, mais je vais quand même lire ce qu'il avait, la question qu'il voulait poser. Il voulait juste dire, je voudrais rappeler qu'il existe des billets congés payés annuels qui permettent d'avoir 25% de remise pour tous les salariés entrepreneurs. Formulaire à télécharger, Bon, ça demande une petite démarche, mais ça vaut le coup,
oui,
ça,
alors, je rejoins tout à fait. C'est-à-dire qu'on vous dit de prendre la carte avantage, mais si vous voyagez une fois par an, c'est pas intéressant. Et en effet, il existe le tarif congé payé. Par contre, il est vrai qu'SNCF le met pas en valeur parce que, tenez-vous bien, il faut aller sur le site, le télécharger, l'imprimer, le faire signer à votre employeur, le scanner, l'envoyer à SNCF et passer un coup de fil. Donc on a vraiment l'impression que ce billet... Bon, à la SNCF ne souhaite pas trop le mettre en avant et c'est dommage parce qu'effectivement c'est intéressant et c'est une bonne recette. Ouais.
Merci infiniment pour vos bons conseils et pour votre décryptage, Patricia Pérenne et vous, François Delétrace. Bonne journée à vous deux. Le feuilleton de la semaine nous emmène à Angers où une future prison doit remplacer la vieille maison d'arrêt vétuste qui date de 1856. Aujourd'hui, Sarah Guibaudot nous emmène à l'endroit où sera implanté le futur centre pénitentiaire à une vingtaine de kilomètres sur la commune nouvelle de Loire-Authion en compagnie du maire d'hiver gauche, Jean-Charles Pronot. Il se bat pour obtenir des aménagements routiers et bien d'autres compensations. Pour l'instant, le terrain est bien détrempé.
Donc là, on arrive, la prison sera là, quoi. Derrière les arbres, donc sur 14 hectares. Donc là, c'est le quartier de la Crémaillère d'Argent. Vous voyez, les habitations sont là.
Et là, il y a une banderole, pas de prison devant nos maisons.
Je comprends les gens de ce quartier. Hein. Là, vous voyez bien, hein, c'est la pleine nature. Hein. Ça va changer l'environnement, obligatoirement. Le pari qu'on fait, mais il est audacieux, c'est de dire, est-ce que l'arrivée de cet établissement, j'aurais de loin préféré Center Park, hein, mais c'est pas ce qu'on me demande, l'arrivée de cet établissement important, est-ce qu'il est accompagné suffisamment pour faire que la greffe puisse prendre un peu? Et c'est là tout le combat. Sur les transports en commun, on travaille sur des bus que moi j'aimerais bien tous les quarts d'heure ou 20 minutes maximum, mais on a besoin aussi de sécurité. Moi je pense qu'on a vraiment... À 17 000 habitants, la taille pour avoir une brigade et la prison doit nous amener une sécurité en termes de gendarmerie.
Où vont loger les surveillants? Je ne sais pas si ça a été étudié.
Il semblerait que les surveillants n'aiment pas habiter sur le lieu où ils travaillent pour ne pas croiser dans les transports en commun les familles, voire les détenus quand ils sont libérés, etc. Mais comme on est une commune nouvelle avec 7 villages, on a quand même une surface énorme. Donc oui, on peut avoir un développement. On est quand même dans une zone maraîchère ici. On espère aussi, mais ce sont des marchés nationaux, que peut-être des groupements de maraîchers pourront fournir une partie de l'alimentation pour les détenus, parce que ça fait quand même du monde et ça fait des vrais volumes. Là, on arrive sur une propriété privée.
C'est un ancien pépiniériste qui a vendu son terrain, c'est ça?
Voilà, c'est ça, exactement. Oui, Pascal, est-ce que tu m'autorises à entrer juste pour montrer le lieu? J'espère qu'il n'y a pas un trou au milieu, là, parce qu'on va disparaître.
C'est-à-dire que là, on est le 27 janvier, donc il y a la tempête qui vient de passer sur l'ouest de la France avec de fortes pluies. Rennes est inondée, et ici, le terrain de la future prison est pas loin de l'être.
Il y a de l'eau. Il y aura des systèmes de drainage et tout ce qui va être eau de pluie amené par l'artificialisation des sols sera traité sous forme de bassins de rétention, enfin, etc.
Bonjour, c'est madame.
Bonjour.
Pascal Levin, c'est revenu. J'ai reçu un coup de téléphone du maire d'Angers qui m'a dit de venir le voir sur un projet effectivement d'installation de la future prison sur mes anciennes pépinières des Landes. Et pour tout vous dire, je n'en ai pas dormi pendant 3 nuits avant de comprendre effectivement qu'il y avait un sujet d'intérêt général. Je ne vous cache pas qu'une prison, ça fait un peu froid dans le dos. Ça peut créer des nuisances, c'est clair. Et il faut tâcher de les prendre en compte pour les minimiser.
Est-ce que ça peut être un voisinage intéressant pour des entreprises d'horticulture?
Pour des activités de main-d'œuvre, ça peut effectivement être une opportunité, pourquoi pas.
C'est pas ce que j'avais prévu dans mon mandat. J'avais pas non plus prévu le Covid. J'avais pas non plus prévu l'inflation, le chauffage, etc. qui se sont envolés. Donc, ma conception des choses et de la politique fait qu'effectivement, sans parler d'opportunité, je me suis dit, voilà, si ça se fait, comment nous, communes, on se positionne pour essayer d'avoir le maximum de compensation et faire que ça soit, encore une fois, quelque chose de signifiant pour le territoire.
Le feuilleton de la semaine signé Sarah Guibaudot avec Stéphane Ronxin à la réalisation.
France Inter,
Le 13-14.
C'est la France. Chaque mercredi, nous avons rendez-vous avec Éric Fautorino du 1 Hebdo pour son regard sur notre pays. Aujourd'hui, Éric, il est question de l'affaire Dreyfus. Une exposition et la parution de ses écrits complets nous offre-t-il un autre regard sur lui ?
Oui, Christelle, c'est la personne de Dreyfus, sa personnalité même, que le musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris, le MAJ, a voulu éclairer dans son exposition qui ouvre demain jusque fin août, simplement intitulée « Alfred Dreyfus, vérité et justice. » Car si l'affaire dans les années 1890 déchira une France très antisémite, elle a finalement éclipsé l'homme Dreyfus, lequel, faut-il le rappeler, fut injustement accusé par l'état-major français de trahison et passa 5 longues années au bagne sur la bien nommée île du diable, privé de toute information sur son dossier. De quoi perdre espoir et risquer de mettre fin à ses jours avant qu'une mobilisation conduite par Émile Zola débouche sur un procès plus équitable et la mise en lumière des preuves de son innocence. Certes, Dreyfus fut gracié en 1899, puis définitivement réhabilité en 1906, année où il reçut la Légion d'honneur. Mais comme le souligne l'historien Philippe Auriol, grand connaisseur de l'affaire dans le hors-série du 1 Hebdo consacré à Dreyfus, le capitaine fut en effet réhabilité civilement par la Cour de cassation, mais jamais il ne le fut militairement. Héros plus que victime, il s'engagea pourtant au front pendant la guerre de 14-18, qu'il termina au rang de lieutenant-colonel.
Alors que nous apprend précisément ce nouveau travail sur Dreyfus ?
Il montre pour la première fois la richesse et la teneur de ses œuvres complètes, une documentation unique réunie par les éditions des Belles Lettres qui éclaire comment Dreyfus a tenu bon malgré l'injustice qui lui était faite. À travers ses nombreuses lettres à sa femme Lucie, on découvre un homme tenace et combatif qui ne s'avoue jamais vaincu, loin de l'image que la postérité avait voulu tracer de lui en personnage falot et écrasé par le sort. Dès 1898, sa correspondance avec son épouse fait l'objet d'un premier livre, « Lettre d'un innocent ». Cet ouvrage, rappelle l'historien Vincent Duclerc, montre une chose. Isolé et enfermé sur un îlot désertique, ignorant tout de la mobilisation qui se lève pour sa cause, Dreyfus résiste. Il résiste en écrivant. L'écriture, dit Duclerc, est sa source d'apaisement et de raison, mais aussi d'évasion et de reconstruction par laquelle il retrouve la haute culture littéraire, scientifique, philosophique qu'il a acquise dans les premières décennies de sa vie. S'y ajoutent des cahiers d'esquisses et de croquis. Il ne s'écroule pas, Dreyfus. L'écriture le tient debout. Avec les mots, il clame son innocence, interpelle les responsables politiques et combat ses moments de détresse.
Et le rôle de sa femme fut-il important dans sa survie ?
Il fut même essentiel. On peut regretter, comme l'essayiste Elisabeth Weissmann, que l'historiographie si impressionnante de l'affaire Dreyfus ait laissé si peu de place à Lucie, qui va littéralement tenir son mari par la plume comme on se tient par la main, au-delà de la séparation forcée, dans une sorte de perfusion relationnelle constante, tout en œuvrant à la révision de son procès. Elle lui parle du quotidien de ses enfants, Pierre et Jeanne. Elle l'implique en lui demandant des conseils pour leur éducation et l'exhorte à vivre pour elle. Ils échangeront ainsi plus de 500 lettres. Et Elisabeth Weissmann en est persuadée. Sans Lucie, il n'y aurait pas eu d'affaire, car Dreyfus serait mort trop tôt, sans laisser à cette affaire le temps de devenir scandale d'État, ni à Zola le temps de lancer son j'accuse.
Un nouveau regard sur le capitaine Dreyfus à lire dans le hors-série du 1, numéro double d'ailleurs, déjà en kiosque. Et vous pouvez bien sûr aussi réécouter l'excellent podcast de Philippe Collin sur le site de Radio France. De C'est la France, ça c'est une chanson, c'est une romancière que l'on retrouve à votre micro aujourd'hui, Frédéric Pommier. Elle s'appelle Barbara Israël.
Elle vient de faire paraître chez Flammarion La beauté des ruines, roman dont les héros, un couple de quinquagénaires, tentent de se réinventer et surtout de raviver leur amour dans les poussières d'Athènes. Et c'est une chanson des Smiths qu'elle a souhaité que l'on écoute. What difference does it make? Une chanson qu'elle a découverte à Nice à l'âge de 14 ans.
La nuit, je faisais le mur pour rentrer en boîte. Je faisais plus vieille que mon âge, donc j'arrivais à rentrer en boîte. Et en fait, c'était en pleine période New Wave. Et là, tout d'un coup, le songwriting de Morrissey débarque. C'est complètement dissonant par rapport à ce qui se passe sur le moment. Et là, je me dis, il y a des gens comme ça sur Terre qui peuvent emprunter une autre voie que celle que je vois autour de moi, de mes parents, de mon entourage, de l'école, de tous les gens qui vous empêchent d'être vous-même, en fait, qui veulent vous formater. Donc, quand j'entends ce « What difference does it make », ce morceau, finalement, ça a sculpté un peu mon âme.
Elle s'appelait comment, la boîte de nuit où vous avez découvert ce groupe ?
Elle s'appelait le Quartz. C'était rue du Congrès à Nice. Yet you start to recoil. Heavy words are so lightly thrown, but still I leap in front of a flying bullet for you. So what difference does it make? So what difference does it make? It makes none, but now you have gone.
C'est en 1984 qu'est sortie donc cette chanson des Smiths, Frédéric.
Oui, sur leur tout premier album. Et j'ai souhaité savoir quel souvenir Barbara Israël conservait de la discothèque où elle l'a entendue la toute première fois.
Je me rappelle qu'il y avait des banquettes comme ça où les gens, évidemment, se galochaient un peu, tout ça, bon, classique. Et tout au fond, il y avait une piste de danse, il y avait le DJ. Et moi, j'étais folle amoureuse du DJ, évidemment, qui avait 26 ans. Donc, il mettait toutes sortes de morceaux que j'idolâtrais. Et je faisais tout pour danser super bien, mais qu'il me voit.
Et il vous voyait ?
Ben oui, il me voyait. Ben, j'ai fini par l'embrasser, mais pour moi, c'était énorme. Mais parce qu'il m'a vraiment, il a eu pitié de moi. Hein. Je pense qu'il a eu pitié de moi. J'ai dû trop le harceler. Je sais pas. Et Morrissey, c'est resté. Mais j'ai encore un poster dans ma chambre. Hein. Je m'approche tranquillement de l'EHPAD. Hein, et pourtant, j'ai encore un poster d'adolescente. Ah ouais, ouais. C'est comme une colonne vertébrale. Hein. Ça m'a donné une identité dont je n'ai pas bougé depuis que j'ai 14 ans. Pas trop.
Morrissey, vous diriez qu'il a représenté quoi ?
Un grand frère et un ami, je pense. Oui, un ami. But no more apologies. Oh, I'm too tired. I'm so sick and tired. And I'm feeling very sick and ill today. But I'm still fond of you. Oh, oh, oh.
Cette chanson, vous l'avez donc découverte au moment où vous étiez en boîte de nuit au Quartz,
oui,
à Nice.
Oui.
Vous vivez encore beaucoup la nuit ?
Oui, ça s'entend à ma voix peut-être. Évidemment, les nouvelles générations, ça fait longtemps qu'elles sont arrivées. Bientôt, je pourrais être la grand-mère de ceux que je côtoie dans les bars. Il y a quelque chose qui vous pousse un peu quand même vers la sortie. Heureusement, j'ai beaucoup d'amis qui sortent aussi la nuit. Donc, on fait une petite bande, on va dire, de vieux. Mais voilà, on sent que c'est plus laborieux, qu'il va falloir se réinventer. Et comment se réinventer quand on a fait quasiment que ça, qu'on a tout misé sur ça ? Sa vie, ça a été la vibration nocturne, quoi.
Mais est-ce que les Smiths, finalement, ils vous permettent pas de garder cette jeunesse éternelle ?
Mais c'est ça. Mais c'est exactement ça. Finalement, c'est inconscient, mais ça n'est pas tout à fait d'avoir un poster dans sa chambre à mon âge de son chanteur préféré. C'est un peu ridicule. Bon, c'est comme ça, mais ça permet de maintenir aussi l'illusion, mais pas que l'illusion, de cette jeunesse, de cette éternité bloquée dans l'adolescence.
Donc continuer à écouter les Smiths, c'est ne pas vieillir.
Ah ben oui, 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 c'est ça. Et c'est ne pas mourir.
Je suis assez d'accord. What difference does it make, les Smiths ? C'était donc, Frédéric, le choix de Barbara Israël.
Dont vient de paraître le nouveau roman La beauté des ruines, c'est chez Flammarion. Elle sera d'ailleurs en dédicace ce samedi à Nice, à la galerie Espace à vendre.
À demain, Frédéric. À suivre après 14h, La Terre au carré. Bonjour, Mathieu Vidard.
Bonjour, Christelle Robière.
Touchous aujourd'hui.
Oui, on va s'intéresser au JO d'hiver 2030 dans les Alpes, donc.
À tout à l'heure.